J'aimerais, pour commencer le message, relire une histoire des évangiles que nous avons lue dimanche dernier. Et on va la lire dans Marc, chapitre 4. Ce sera notre premier passage. Après, nous irons dans les Corinthiens. Marc, chapitre 14. Marc, chapitre 14, verset 3. Marc 14, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres, et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. » Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Amen. La semaine dernière, vous vous souvenez que nous avons mis surtout l'accent sur Simon le lépreux, où nous avons vu ensemble cette ordre de mission que Jésus avait laissé à ses apôtres, purifier les lépreux. Mais avant de parler ce matin, on va parler de cette femme qui a rompu ce vase qui contenait un parfum de grand prix. On va parler de cela. Mais avant cela, j'aimerais lire avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, et nous lirons les versets 6 et 7. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Deux versets extraordinaires. Alors bien sûr, il faudrait lire tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a après, parce que tout ça, ça fait un ensemble. Mais nous avons là deux versets extraordinaires où l'apôtre Paul parle d'un trésor inestimable, d'un trésor inestimable. Imaginez que vous héritiez d'un trésor de grand prix, non pas un petit trésor, mais quelque chose, un trésor que même les hommes, les femmes les plus riches de ce monde ne pourraient acheter, quelque chose de très rare, qui a une valeur inestimable. Où le cacheriez-vous, où le mettriez-vous à l'abri? Probablement qu'on essaierait de trouver un coffre-fort les plus solides qui existent sur cette terre, voire même devant ce coffre-fort, on mettrait deux vigiles armés jusqu'aux dents pour que personne ne nous vole ce trésor. Parce que ici-bas, vous savez, les voleurs, ils arrivent à tout percer, hein. Ils arrivent à tout à dérober. Nous savons, nous connaissons l'endroit où les voleurs ne peuvent rien faire et nous sommes appelés, bien sûr, à amasser des trésors dans le ciel. Mais nous n'allons pas parler de cela. En tout cas, c'est vrai que si nous avions un trésor inestimable, on le mettrait bien à l'abri ou alors on le cacherait dans un endroit que personne ne connaît, que personne ne peut trouver. Or, ici, l'apôtre Paul nous dit que ce trésor a été mis dans des vases de terre. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Ce trésor-là est bien plus, précieux que tous les trésors qu'on pourrait accumuler sur cette terre. Quand bien même on aurait tout l'or du monde, tous les diamants du monde, ce n'est rien en comparaison au trésor que Dieu veut déposer dans nos cœurs. Même Elon Musk, même Bill Gates, leurs richesses réunies ensemble ne pourraient pas acheter un petit bout de ce trésor. Alors si les hommes de cette terre mettent leur trésor dans des coffres bien sûrs, dans des coffres gardés, dans des coffres blindés, Dieu lui met ce trésor encore plus inestimable dans des vases de terre. Ah, mais il n'y a que Dieu pour faire cela, n'est-ce pas? Dans des vases de terre. Alors avant de parler de ces vases de terre, quel est donc ce trésor? L'apôtre Paul parle de la connaissance de la gloire de Dieu. Et cette connaissance de la gloire de Dieu, elle resplendit sur la face de Christ. Si quelqu'un veut connaître la gloire de Dieu, qu'il cherche Jésus parce qu'il est la gloire de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Il est celui qui l'a fait connaître. Et tous les trésors que Dieu veut déposer dans nos cœurs, parce qu'on pourrait mettre même au pluriel, tous ces trésors sont tous réunis en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais, avec vous, avant d'aller plus loin, lire quelques textes pour nous en convaincre. Dans Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, versets 2 et 3. Colossiens. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Et en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Tous les trésors, j'allais dire, sont réunis en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui a trouvé Jésus a trouvé le bien le plus inestimable qui puisse se trouver dans les cieux, sur la terre et dans tout l'univers. Jésus est la gloire du Père. Lisons encore dans Colossiens chapitre 1er, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Christ en nous, dans ces vases de terre là que nous sommes, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et l'apôtre Paul dira que Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quel bien inestimable, quel trésor inestimable. Lisons encore dans Éphésiens chapitre 1er, verset 18. Éphésiens chapitre 1er, verset 18. Paul prie le Seigneur et son sujet de prière, c'est qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Rien que ça. Et parfois, c'est vrai que nous ne comprenons pas, nous ne réalisons pas, j'allais dire, toute la teneur de cette richesse. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, mais qu'il prie pour que nos yeux s'illuminent, les yeux de notre cœur s'illuminent, pour que nous sachions, bien sûr, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Nous avons une espérance. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. Ce qui nous attend est extraordinaire, frères et sœurs. Nous avons un trésor inestimable et ce trésor, tout est réuni en la personne de Jésus. Encore quelques passages dans Éphésiens chapitre 2, verset 7. Il dira, on peut même lire le verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » C'était toujours en Jésus-Christ. Il est parlé ici de l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, voilà, ce verset encore nous montre que tous les trésors sont réunis dans un autre trésor, la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils unique de Dieu, la gloire du Père, que Dieu soit béni. Alors, ceci étant dit, il y a cette parabole du trésor caché dans un champ. Un homme trouve un trésor caché dans un champ. On aimerait tous trouver un trésor comme ça. On se promène dans la nature, on se fait une petite balade et on tombe sur un coffre-fort. Waouh, ça c'est bien. Ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Et dans la parabole, Jésus nous dit que le royaume des cieux est encore semblable à un homme qui trouve un trésor dans un champ. Qu'est-ce qu'il va le faire? Il va cacher ce trésor, justement pour que personne ne le dérobe. Il va vendre tout ce qu'il a et il achète le champ. Pas bête. Parce qu'il sait qu'en achetant le champ, il y a le trésor dedans. Donc tout ce qui est dans le champ va lui appartenir. Et le champ a moins de valeur que le trésor. Si le champ coûte 2 ou 3 000 euros, il sait que le trésor peut lui rapporter plusieurs millions d'euros. Ça, c'est un gain. Bien sûr, cela nous parle. Lorsque nous avons trouvé ce trésor qu'est Christ, nous sommes prêts à donner toute notre vie pour avoir ce trésor. Parce que nous avons découvert que sans lui, nous ne pouvons rien faire, car nous avons découvert qu'il est le Fils unique venu du Père, celui qui nous réconcilie avec Dieu. Nous avons découvert le sens de notre vie, nous avons découvert ce qu'il a fait pour nous à la croix, nous avons découvert toutes les perles précieuses, son amour, sa sainteté, sa fidélité, nous avons découvert qu'il est le bien le plus inestimable que nous pouvions avoir sur cette terre. Et quand bien même on aurait tout perdu, quand bien même on n'aurait plus aucune richesse humaine, si nous avons découvert Christ, nous sommes alors les hommes et les femmes les plus riches de ce monde. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Comme Moïse. Moïse avait découvert cela. Il nous est dit au sujet de Moïse dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, où il nous est parlé de la foi de certains hommes et femmes de foi. Il nous est parlé de la foi de Moïse. Il nous est dit qu'il a regardé l'opprobre de Christ avant que Jésus vienne. Moïse, le prophète, avait compris ça déjà. Il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Moïse, qui était élevé à la cour de Pharaon, qui avait considéré comme le fils de la fille de Pharaon, héritier potentiel de l'empire dominant de l'époque, avec tous les trésors de l'Égypte qu'il renfermait. Voilà, c'était pas rien l'Égypte à l'époque. C'était les États-Unis d'aujourd'hui. C'était pas rien. Et Moïse était regardé comme le fils de la fille de Pharaon. Et donc, il avait la jouissance de tous ces trésors de l'Égypte. Mais Moïse a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que cela. Et il a été prêt à renoncer à tout cela pour suivre le plan de Dieu pour sa vie. Que Dieu soit béni. Quel exemple extraordinaire. Oui, Dieu nous a révélé qui est le Fils et il a mis dans nos cœurs ce trésor-là. Le Saint-Esprit est venu en nous, que Dieu soit béni. Ce trésor inestimable a été mis dans des vases de terre. On pourrait dire, mais waouh, Dieu nous fait confiance, quelque part. Il l'a mis dans des trésors, dans des vases de terre. Nous, nous ne l'aurions pas fait cela, probablement que nous l'aurions mis, comme je le disais, dans un lieu en sécurité. Nous l'aurions mis dans un coffre-fort, nous l'aurions caché, mais Dieu n'a pas décidé de mettre ce trésor dans un coffre-fort, ni même dans un musée. Il y a des musées où il y a vraiment de trésors de l'humanité qui sont là et qui sont, bien sûr, bien gardés, ces musées. Mais Dieu n'a pas fait ainsi. Il l'a mis dans nos cœurs. Nous sommes ces vases de terre. Nous sommes ces vases de terre. Et qui dit vase de terre, même on pourrait traduire par vase d'argile. L'argile, c'est fragile. La terre, c'est fragile. Le potier va façonner le vase, mais c'est assez fragile. La durée de vie d'un vase de terre est quand même beaucoup moins grande qu'un vase en or, qu'un vase en métal ou que sais-je encore. Donc, et en plus, c'est fragile. C'est une durée de vie limitée et en plus, il suffit de le faire tomber et ça casse. Ça casse. Cela nous parle, bien sûr, de nos fragilités et de nos limites. Et c'est dans des hommes et des femmes tels que nous que Dieu a décidé de placer ce trésor. Ça nous parle quand même un petit peu de notre humilité. C'est lui qui nous forme, qui nous façonne. C'est le divin potier. Et nous n'allons pas dire, à qui sommes-nous, nous qui sommes que des vases, dire au divin potier, mais pourquoi tu m'as fait ainsi ? Nous acceptons ce que Dieu fait avec nos vies, ce que Dieu fait dans nos vies, dans la foi, sachant que de toute manière, la gloire de Dieu eh bien, se manifeste aussi au travers nous, en nous, comme nous le dit eh bien, ce passage. Certains commentateurs ont dit que l'apôtre Paul, à la lumière de certains textes de ses épîtres, était un peu orgueilleux. Mais quand on lit certains autres versets de ces épîtres, notamment aux Corinthiens, mais pas que, on voit quand même que l'apôtre Paul savait se tenir dans l'humilité. Il parle, notamment dans les Corinthiens, mais pas que, aussi dans les Galates, il parle de ses faiblesses et il parle de ses limites. Il dira même, à un moment donné, à cause des révélations de Dieu, afin que je ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Donc l'apôtre Paul était bien conscient des révélations que Dieu lui avait données. Ces révélations, il nous les a communiquées. Mais justement, il aurait pu s'enorgueillir de cela, mais Dieu avait prévu un moyen pour Paul pour qu'il ne s'enorgueillisse pas, une écharpe dans la chair, et il lui a dit « Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. » Nous pourrions prendre d'autres exemples de la parole de Dieu, des hommes et des femmes qui ont reçu des grâces de Dieu, des dons. Mais qui étaient-ils ? Des hommes et des femmes de la même nature que nous. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, on voit qu'ils étaient faits avec la même pâte que nous, c'était des vases de terre. Élie le prophète, quel prophète ? C'est la référence parmi les prophètes. Or, à un moment donné, Élie fuit devant une femme, Jézabel, et puis Élie est en pleine déprime. On pourrait parler encore de Pierre. Pierre avait ses failles. Pierre, on voit bien que lui aussi était un vase de terre. On pourrait parler des failles de Jean. Ah, Jean. Ah, veux-tu qu'on commande au feu du ciel de descendre, de les consumer tous ? N'avait-il pas là aussi ses propres faiblesses, ses propres limites ? On pourrait énumérer tant d'hommes de Dieu, tant de femmes de Dieu dans la parole de Dieu. Ils étaient des hommes et des femmes tels que nous, sujets à la faiblesse, sujets à des limites. Dieu s'est servi d'eux, il les a façonnés de telle ou telle manière pour qu'ils puissent accomplir telle ou telle mission, tel ou tel plan que Dieu avait prévu dans son cœur. Qui sommes-nous pour contester avec Dieu ? C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a façonnés. Et c'est dans ces vases de terre que Dieu a décidé de mettre cette gloire, la connaissance de la gloire de Dieu. Rien que ça. La connaissance de la gloire de Dieu. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Cela, en fin de compte, va faire que la puissance de Dieu va même se révéler encore plus. Parce qu'il est évident, puisque cette gloire est dans des vases de terre, que ça ne vient pas de nous, ça vient que de Dieu. Ça vient que de Dieu. Il n'y a aucune gloire dans un vase de terre. Mais cette grande puissance est attribuée à Dieu. Elle est attribuée à Dieu. Dans les Actes des Apôtres, il est écrit ceci, c'est lorsque l'apôtre Paul avec son équipe arrive à Thessalonique et que, on le sait, au bout de 3 semaines, il va rester très peu de temps à Thessalonique parce que l'influence de certains hommes, la population va se dresser contre eux et ils vont être obligés de fuir Thessalonique à cause de la persécution. Et un des arguments des détracteurs de ces apôtres était ceci, ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus parmi nous. Ces gens qui ont bouleversé le monde, qui étaient-ils ces gens? Des hommes et des femmes de la même nature que nous. Des vases de terre. Même il était dit des premiers apôtres, ce sont des gens sans instruction. Sans instruction. C'était évident que ce n'était pas par leur propre force qu'ils ont pu bouleverser l'Empire romain à l'époque. Ils n'avaient aucune richesse, l'apôtre Paul le dira bien. Considérez que parmi vous, il n'y a ni beaucoup de nobles, ni beaucoup de sages selon ce siècle. Il n'y a pas beaucoup de riches parmi vous. Il y en avait peut-être quelques-uns, mais il n'y en avait pas beaucoup. Des vases de terre. Mais avec ces vases de terre de l'époque, Dieu a manifesté sa puissance et l'odeur de sa connaissance s'est répandue partout. L'Évangile a été répandu partout comme un parfum qui répand son odeur partout. Que Dieu soit béni. Mais pour que ce trésor soit mis en évidence, pour que ce parfum puisse se répandre, l'odeur de sa connaissance se répandre, il faut que le vase soit brisé. Vous connaissez cette histoire de Gédéon ? Lorsque Gédéon va mobiliser l'armée d'Israël pour combattre contre les Madianites, au début, ils étaient plusieurs milliers de soldats. Or, l'Éternel va dire, non, il pourrait tirer gloire de cela. Donc, tu vas faire le tri parmi le peuple. Donc, sous les recommandations de l'Éternel, Gédéon va trier le peuple et il va rester au final que 300 soldats face à toute l'armée des Madianites. Qui aurait fait ça? Encore là, il n'y a que Dieu pour faire ça. Mais afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas aux hommes. Qu'est-ce que Gédéon va recommander à l'armée, à ces 300 hommes qui restent là? Il va leur dire de prendre un flambeau et de le mettre dans une cruche. Ils vont entourer le camp des Madianites. Et au signal de Gédéon, ils vont briser la cruche dans laquelle il y a un flambeau. Jusqu'ici, elle était cachée. Tant que la cruche n'était pas brisée, on ne voyait pas le flambeau. Mais au moment, ça a été un effet de surprise, au moment où Gédéon a donné le signal, les soldats, les 300 soldats ont brisé leur cruche et alors les flambeaux sont apparus. La lumière est apparue, des flambeaux. Quelle belle image. Lorsqu'un cœur est brisé, la gloire de Dieu se manifeste encore plus. Dans le psaume 51, verset 19, l'apôtre David dira ceci, Psaume 51, verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et plus on opprime le peuple de Dieu, plus la gloire de l'Éternel se révèle. Or ici, bien sûr, on a bien compris le contexte dans lequel David dit cela. David a péché. Mais David avait ceci, c'est que il s'est laissé saisir par la parole de Dieu, et quand Nathan le prophète vient le trouver, la parole du prophète Nathan va percuter le cœur de David. Et son cœur, qui est comme un vase, là, va se briser, et là, va se révéler quelque chose dans le cœur de David. Va se révéler quelque chose qui va donner naissance à la repentance. On sait que David est un homme selon le cœur, et on voit vraiment ce qui est dans le cœur de David qui va se révéler à ce moment-là, David aurait pu offrir tous les sacrifices qu'il aurait pu, signe extérieur de religiosité, cela n'aurait rien fait, n'aurait rien changé. Mais David a répandu son cœur devant le Seigneur. Lorsque nos cœurs se répandent devant Dieu ainsi, il y a quelque chose qui se dégage. Dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14, 2 Corinthiens 2, 14, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait de temps en temps triompher en Christ. Non, c'est pas ça. Triomphe toujours. Hein. C'est voir si vous suivez. Qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous avons dans nos cœurs le parfum le plus inestimable qu'on puisse trouver sur cette terre. Vous savez, il y a des parfums qui coûtent cher. Il y a des parfumeurs qui ont des renoms et certains parfums coûtent une fortune. Mais nous avons un parfum encore plus inestimable. C'est la bonne odeur de Christ. Alléluia. Nous avons dans nos cœurs la bonne odeur de Christ. Mais est-ce que ce parfum est fait pour rester dans un vase, dans un flacon? Si Dieu a mis dans nos cœurs cette bonne odeur de Christ, s'il est venu faire sa demeure en nous, s'il habite en nous, par son esprit, c'est pour que cette bonne odeur de Christ se répande. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car en fin de compte, qui est suffisant? Tout vient de Dieu. Nous ne sommes que les vases, nous ne sommes que les flacons. Mais revenons, puisqu'on n'en a pas encore parlé, de cette femme. Dans notre premier texte d'introduction tout à l'heure, qui viendra là où était Jésus, dans la maison de Simon le lépreux à Béthanie. Cette femme qui va faire quelque chose d'inouï, elle a en sa possession un parfum d'une bonne odeur, de grand prix. Cette femme va utiliser ce parfum pour une occasion vraiment spéciale. Elle ne l'utilise pas pour un mariage ou pour une occasion tout à fait particulière de famille ou autre. Mais cette femme va rompre le flacon, va rompre le vase et va le répandre sur la tête de Jésus. Voilà. Ça provoque de l'indignation. Et puis ils vont s'irriter contre cette femme. Une odeur de mort donnant la mort, parce que ceux qui refusent le message de l'Évangile, malheureusement, on sait ce que ça va donner. Mais elle l'a fait, cette femme, dans la foi, et Jésus dira même, mais pourquoi vous lui faites de la peine? Elle a d'avance embaumé mon corps. Elle le fait parce qu'elle est en train, en fin de compte, c'est son cœur qui parle. Ce qu'elle a de plus cher, elle le déverse sur la tête du Seigneur Jésus. Elle a entrevu certaines choses que peut-être certains n'ont pas entrevues. Elle veut faire quelque chose pour Jésus alors qu'il est encore avec eux. Vous ne m'avez pas toujours. Vous aurez les pauvres toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a compris qu'il y avait un bien plus précieux que son parfum et elle a fait ce qu'elle a pu. Elle est en train, en fin de compte, de répandre son cœur. On ne sait pas, évidemment, on ne connaît pas sa vie, on ne connaît pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais cette femme a entendu parler de Jésus, Jésus a fait quelque chose pour elle, a transformé son cœur. On pourrait lire en parallèle avec les autres évangiles, on peut supposer certaines choses que Jésus a fait. Il y a eu une rencontre avec Jésus telle que l'apôtre Paul l'a eu, lui aussi en son temps et de sa manière, lorsqu'il était sur le chemin de Damas, il a rencontré Jésus, ça a marqué sa vie. Et nous aussi, à notre manière, dans notre cheminement, nous avons rencontré Jésus. Il a imprégné sa marque, sa personne dans nos cœurs. Il est venu habiter en nous d'une manière ou d'une autre. Nous avons chacun nos expériences, chacun notre témoignage là-dessus. Mais la réalité aujourd'hui, c'est une réalité commune que nous vivons. C'est Christ qui est en nous. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, la gloire de Dieu. Pas rien, hein? Mais qu'est-ce que nous sommes? Des vases de terre. Nous voulons répandre ça autour de nous. Nous voulons vraiment que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ se répande en tout lieu, déversant nos cœurs pour cela. Alléluia. Et plus on opprime l'Église, plus on opprime les chrétiens, plus on les persécute, plus c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Parce qu'ils agissent dans ces circonstances-là comme Jésus a agi en montant sur la croix. Il n'a point fait de menace. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard, nous l'avons dédaigné, méprisé des hommes. Abandonné. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Mais ce sont nos péchés dont il s'est chargé. Non, merci Seigneur, nous voulons, nous aussi, répandre cette odeur de Christ. Alléluia. Dans ces circonstances-là, nous voulons ressembler à Christ. Cette gloire de Dieu-là, il faut qu'il se manifeste. Et si la mort de Christ agit en nous, la vie de Christ aussi agit en nous. Car nous marchons selon l'esprit de la croix, mais il y a la résurrection après la croix. Alléluia. Nous sommes ressuscités ensemble et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous triomphons toujours en Jésus-Christ, parce qu'il a triomphé de tout. La croix n'a pas été un point final, c'est le commencement de quelque chose, parce qu'il y a la résurrection derrière, et la vie de Dieu se manifeste en nous. Merci Seigneur, parce que Dieu n'en a pas fini avec nous. Alors, oui, nous ne sommes que des vases de terre, mais béni soit Dieu, parce qu'il a mis en nous l'odeur de sa connaissance, ce parfum inestimable. Et nous voulons, nous aussi, répandre nos cœurs devant Dieu. Nous voulons bien reconnaître ce que nous sommes, dire Seigneur que ta gloire se manifeste au milieu de nous, au travers de nous, Seigneur. Afin qu'encore beaucoup sentent cette odeur et qu'ils soient attirés par la bonne odeur de Christ, afin qu'ils puissent avoir la vie, eux aussi. Que Dieu soit béni. J'aimerais, pour terminer, simplement prier le Seigneur qui nous a unis par son Esprit. Merci Seigneur, que ton Église soit ce matin comme cette femme. Nous savons que ton Église est ton épouse, Seigneur. Et nous voulons être comme cette femme, Seigneur, ce matin, répandre sur ta tête ce parfum d'adoration, de louange, de reconnaissance, de consécration. Nous donner entièrement à toi, Seigneur, répandre nos cœurs devant toi. Et nous savons qu'en répandant nos cœurs devant toi, cette odeur va se dégager, Seigneur, et remplir toute la maison. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu fais en nous, parce qu'il t'a plu de mettre ce trésor inestimable dans ces vases de terre que nous sommes, afin que ta puissance soit manifestée encore plus. À toi soit donc toute la gloire, Seigneur, nous ne voulons pas perdre courage, mais nous voulons prendre courage, parce que c'est toi qui nous fais toujours triompher en Christ. Quoi qu'il arrive, nous sommes entre tes mains et nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux que tu as appelés selon ton dessein. Alors que ton nom soit glorifié, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et vous encourage encore.